C'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news. Hello.
Il est 9h, passé de 39 secondes sur France Inter, un instant M classé top secret.
Vous êtes en direct, allez-y.
Exceptionnellement, vous ne pourrez pas suivre ce matin l'émission en vidéo en direct. Vous attendrez quelques minutes afin que nous puissions flouter notre invité. Celui-ci, ancien cadre de la DGSE, Service extérieur du renseignement français, a accepté de venir en studio à condition que nous préservions son anonymat. Lui-même a créé une chaîne YouTube intitulée Talks with a Spy, conversation avec un espion. Il n'y montre pas son visage, mais livre au public les trucs et astuces de son métier, dégommant au passage quelques poncifs médiatiques sur l'espionnage.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Mon nom n'a pas d'importance. Je précise que ma démarche est individuelle. Elle n'est nullement cautionnée par la DGSE. Ensemble, nous parlerons d'espionnage, bien sûr, mais aussi de contre-espionnage, d'espions, de taupes, de sources, de recrutement, de trahison. Bienvenue sur la chaîne YouTube Talks with a Spy.
Bonjour, Beryl 614.
Bonjour.
Pourriez-vous retracer pour les auditeurs votre formation et votre carrière ?
Alors, la formation, je suis saint-syrien d'origine, donc je suis militaire. Et donc, avant de rentrer à la DGSE, j'ai fait une dizaine d'années de carrière où j'étais capitaine, lieutenant, a fait des missions à l'étranger. Et puis ensuite, en 2002, j'ai rejoint la DGSE. D'abord dans un petit service qui s'occupe de clandestinité. Et puis ensuite, je rejoins d'une manière un peu plus classique la direction du renseignement. Et puis voilà.
Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes Beryl 614, l'ancien agent que vous prétendez? Vous le dites vous-même dans vos vidéos, ça s'apprend et ça se travaille de savoir dérouler sa légende. Alors la légende, c'est la couverture d'un agent. Mais ne vous êtes-vous pas inventé une légende d'espion alors qu'en réalité, vous ne l'avez jamais été?
Oui, alors comment vous le prouvez? Je ne peux pas vraiment vous le prouver, mais certains journalistes déjà, en amont, ont fait des recherches, ont des sources de gens qui sont à la DGSE, on peut dire, est-ce que c'est un vrai? On leur a dit oui, on le connaît, c'est un vrai. Voilà, où j'ai pu aussi présenter quelques preuves à des journalistes, notamment mon passeport diplomatique, etc. Et puis, voilà, le nom correspond, ils avaient mon nom réel.
Beryl 614, c'est un nom d'emprunt que vous utilisiez au cours de votre carrière ou quelque chose que vous avez fabriqué pour la chaîne YouTube?
Donc ça, en l'occurrence, c'est un fake, c'est une légende, c'est quelque chose, un paravent, pour cacher ma véritable identité, mon véritable nom, mais voilà, ça ne représente pas des codes qu'on retrouve dans la réalité, c'est donc complètement inventé, et c'est un clin d'œil à mon premier formateur en renseignement, où dans lequel on avait des exercices où les gens étaient catégorisés comme ça, avec des codes d'un nom, avec un chiffre.
Avec un chiffre, voilà. Très bien. Alors, je partage avec les auditeurs le peu que je sais de vous, que je vois de vous à travers vos vidéos, je parle pas de l'homme que j'ai en face de moi dans le studio, mais vraiment ce qu'on voit de vous à travers la chaîne YouTube. On voit un homme habillé de manière assez classique, assez smart, qui ne filme jamais son visage. Le plan s'arrête à vos épaules. Vous vous filmez dans un intérieur assez cossu. Vous avez toujours une tasse en porcelaine bleue. Voilà, vous êtes blanc. Vous avez à l'une des mains le majeur légèrement déformé. Vous êtes marié, vous portez une alliance. Vous êtes marié pour de vrai ou ça fait partie des accessoires et de la mise en scène de Talks with a Spy?
Non, il y a quand même des parties réel dans Talks with a Spy, et celle-là en fait partie, je suis réellement marié.
D'accord. Alors, est-ce que c'est comme dans les films? Est-ce qu'on rentre à la maison en disant « Salut chérie, j'ai passé une excellente journée au bureau chez EDF » ou n'importe quel job d'emprunt?
C'est amusant, EDF, vous dites EDF, c'est souvent, quand j'écris, je ne veux pas écrire DGSE, j'écris EDF, ou j'écrivais en tout cas.
Voilà, mais ça donc, permettait de tromper l'ennemi.
Ça permettait, dans les prises de notes, dans mon agenda, ça trompe l'ennemi. Il y a des choses qu'on peut dire, on ne va pas rentrer en détail, il ne faut pas être bavard.
Alors, le Bureau des Légendes, série formidable série de Canal+, signée Éric Rochant, bientôt de retour d'ailleurs pour une saison 4, met le doigt sur ce qui peut faire dérailler la légende. C'est-à-dire voir un agent préférer vivre dans sa légende plutôt que dans sa vraie vie. On vous en fait écouter un extrait. Mathieu Kassovitz, alias Malotru, est tombé follement amoureux de sa cible.
Comment vous vous appeliez là-bas?
Paul Lefebvre.
Et donc vous avez été amené à rompre certaines relations?
Vous savez très bien de qui on parle.
Madame Nadia El-Mansour.
Tout va bien, tu me fais pas le syndrome du clandestin.
C'est quoi ça, le syndrome du clandestin?
Ça nous met tous en danger parce qu'on ne veut plus de sa vraie vie.
Tu es à Paris?
Ouais.
Moi aussi.
T'inquiète pas, c'est la ville des amants ici.
Voilà, Béryl 614, est-ce que vous avez été confronté à ce type de tiraillement, c'est-à-dire choisir entre des choses qui se passent dans la vie réelle, des sentiments, et puis la mission qu'on vous a confiée?
Donc bah, j'aime beaucoup cet extrait, et puis ce thème de la clandestinité, quelque chose qui m'est particulièrement cher. Oui, j'ai été clandestin avec une légende, avec un nom complètement emprunté, des faux papiers, une fausse vie. Et donc, je comprends très bien le mécanisme du personnage joué par Kassovitz et du risque qu'on peut avoir à ne pas bien couper sa légende. Normalement, quand on est un agent bien élevé, bien formé, à la fin de sa mission, on coupe tout et on ne rappelle pas, on rappelle personne.
Les liens d'amitié qui se créent pendant la mission. Vous en racontez un, justement. Ouais, une belle histoire d'amitié dans une des vidéos de votre chaîne YouTube.
Absolument. C'était pas une relation amoureuse, mais c'est une amitié très forte. Quelqu'un que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié.
Qui était lui-même agent dans un autre service, non?
Non, c'était pas un agent. Ou alors, je l'ai pas su. Mais ça m'étonnerait. Non, je pense que c'était pas un agent.
Est-ce que c'était une cible pour vous?
Non, c'était un facilitateur. Voilà, qui me permettait d'avoir sa caution morale et puis d'approcher un cœur de cible qui nous intéressait à l'époque.
Voilà. Donc il a fallu renoncer à cette
amitié. Il a fallu renoncer à ça, et je me souviens, donc il m'avait rappelé, parce que j'avais pas encore fermé mon téléphone pour laisser le vivre un petit peu, pour pas couper complètement brutalement, sinon ça fait louche. Et donc j'avais écouté son enregistrement vocal qui me disait ah salut avec mon nom d'emprunt de l'époque. Et là, d'entendre sa voix, ça m'avait vraiment fait quelque chose. C'était dur.
Dans une autre vidéo, vous égrenez les qualités qui font, selon vous, un bon espion. Il y a justement l'honnêteté.
C'est un métier trouble. Et les gens, quand on ne parle pas de renseignements, d'espionnage, se disent, bon, c'est les barbouzes. Il y a un côté aussi négatif dans ces images-là, des menteurs, des manipulateurs. Mais moi, je ne me suis pas du tout senti... Oui, j'ai manipulé, bien sûr, mais je n'ai jamais manipulé le service. Et donc, il faut une honnêteté intellectuelle terrible, enfin très forte, pour dire ce qui s'est passé, pour pouvoir faire les bonnes analyses, en disant, là, j'ai eu un échec, la personne, j'ai essayé, ça n'a pas marché, etc. Il faut toujours faire preuve de beaucoup d'honnêteté.
C'est un métier de l'écrit, vous le répétez souvent dans vos vidéos. D'ailleurs, on vous voit toujours, presque toujours, les deux mains posées sur un bureau et des notes tapuscrites sous les yeux. Vous dites qu'un agent écrit tout et que l'écriture constitue même un garde-fou.
Oui, absolument. Et donc, c'était la critique que je faisais un petit peu dans le bureau des légendes. Mais je comprends aussi qu'Éric Rochand n'ait pas voulu montrer des gens qui écrivent toute la journée. C'est pas très marrant. Mais pour nous, dans notre métier, c'est extrêmement important. Dès qu'on voit quelqu'un, dès qu'on fait une action, dès qu'on se déplace sur le terrain, eh ben, il va falloir tout écrire ensuite en rentrant.
Alors, pourquoi avoir choisi la vidéo Béryl 614 pour raconter ce que vous aviez envie de raconter sur votre vie d'agent en service?
Oui, bonne question. C'est vrai que j'aurais pu le faire par écrit. Mais d'ailleurs, c'est des vidéos écrites. J'écris mes textes. Je le fais assez rapidement. Et puis ensuite, c'est parce que dans mes hobbies, que j'ai pas tellement eu le temps de développer lorsque je travaillais, parce que ça demande beaucoup de travail. Et donc, j'ai toujours aimé l'image, la vidéo, le montage vidéo, l'ordinateur. Et donc, ça m'a aidé pour construire cette...
Il n'y aurait pas une émission de radio, quand même, qui vous a marqué
peu? Non, bien sûr. Monsieur X, Monsieur X qui m'a mis sur la voie. C'est-à-dire, c'était un dialogue entre un journaliste et un espion.
Légendaire programme de France Inter pour les plus jeunes qui nous écoutent, qui peut-être.
Et j'ai beaucoup d'abonnés qui me disent ah, enfin, oui, ça me fait penser à Monsieur X et j'aimais beaucoup Monsieur X, formidable, etc. Et donc oui, j'ai mis ma patte et des choses différentes, etc. Mais j'aimais beaucoup ce dialogue. La voix de l'acteur ou d'un véritable espion, on ne saura jamais.
Vous ne le savez pas. Moi, je le sais puisque j'ai reçu Monsieur X et qu'il est venu dans ce studio avec chapeau et lunettes. Le fait de passer par l'image Béryl 614, est-ce que vous ne convoquez pas de fait une somme gigantesque d'images médiatiques, séries, cinéma, qui font que finalement l'espionnage est pour nous tous un univers familier?
Oui, et j'en joue d'ailleurs, effectivement. Dans ma vidéo introductive, je joue un peu sur les poncifs du genre, mais c'est pour mieux les détourner après, et puis ensuite de parler de choses sérieuses.
Alors il y a quelque chose d'extrêmement intéressant et qui revient sans cesse dans vos explications, que pour ma part, alors n'étant vraiment pas une spécialiste, je n'avais jamais compris de la sorte. Vous expliquez bien que le cœur de votre métier, c'est de recruter une source. Et voilà qui est rarement présenté de la sorte.
C'est la clé du métier quand on parle de renseignement humain. Et donc, pour le renseignement, il y a deux familles, c'est le renseignement technique et humain. Mais quand, et les deux sont très importants, on n'a pas, si on n'a que l'un et pas l'autre, on rate quelque chose. Donc, quand on parle de renseignement humain, la clé, c'est d'avoir une bonne source. Et il n'y en a pas 36 000. Un grand service, il va avoir 12 sources extraordinaires. Et on peut très bien faire tout des papiers extraordinaires et informer nos autorités à très bon niveau avec 2-3 sources. Très bien, formidablement bien implanté.
Alors, recruter une source, ça peut passer parfois par le sexe et par la drague. Alors évidemment, pour rigoler, on vous fait écouter un petit extrait d'OSS 117. Rio ne répond plus.
Oh pardon, je suis affreusement maladroite. Apparemment, je vous ai éclaboussé.
Mais je vous en prie. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'une femme qui éclabousse un homme, c'est un peu comme la rosée d'une matinée de printemps. C'est la promesse d'une belle journée et la perspective d'une soirée enflammée.
Quel réveil!
Je n'y suis pour rien. C'est l'inexpugnable arrogance de votre beauté qui m'asperge.
Parfois, l'amour est un piège, le sexe est un piège, la drague est un piège. Vous y consacrez une vidéo entière, Beryl 614.
Évidemment, c'est un sujet très lié au renseignement. Donc il y a beaucoup de services qui utilisent le sexe pour recruter des sources, pour les mettre en danger, pour les faire chanter, etc.
Donc, les Russes, beaucoup, les Pakistanais, beaucoup,
absolument.
Grands utilisateurs de...
Les Chinois.
Les Chinois ?
Ah oui, oui, les Chinois, beaucoup.
Très bien, vous dites qu'à la DGSE, c'est relativement mal vu, ça ne se fait pas.
Oui. Non, on n'aime pas, on ne se sent pas à l'aise, on aurait des doutes sur l'espion qui va mener l'opération, on va dire tiens, qui contrôle qui.
Donc, ça sème le trouble.
Ça sème le trouble, oui, c'est ça, on ne sait plus. Et puis d'ailleurs, vous voyez, la série du Bureau des légendes, on a bien quelqu'un qui, par amour, tout d'un coup commence à cacher les choses. Donc non, on n'aime pas ça, et on ne l'utilise pas.
Vous n'éludez aucun sujet, même les plus complexes, comme la torture. Allez, James Bond torturé par le méchant dans Casino Royale.
Entre nous, je n'ai jamais compris tous ces supplices élaborés. Il n'est rien de plus aisé que de faire souffrir un homme jusqu'au point de non-retour. Et bien sûr... À la douleur subite s'ajoute le fait que l'on sait que si on ne se soumet pas assez vite, on ne sera peut-être même plus identifiable en tant qu'homme.
Beryl 614, au cours de cette vidéo, vous réfléchissez sur la nécessité ou non de torturer la torture que vous qualifiez non seulement d'illégale, mais d'abjecte. En même temps, vous expliquez bien que vous avez été entraîné à résister à la torture et que cela permet notamment d'en avoir éprouvé, d'en avoir compris les différentes séquences.
Voilà, oui, c'est ça. Donc, on s'entraîne à la torture, mais c'est pas du tout pour cela que on s'entraîne à torturer du tout. Donc, oui, c'est une.
Mais il faut avoir été torturé pour résister à la torture au cas où on est capturé, enlevé, pris en otage.
Alors, c'était surtout dans ma carrière, dans ma carrière militaire, mais j'ai eu aussi un entraînement à la DGSE à cela. C'est pas forcément extraordinairement nécessaire, mais c'est dans le cadre d'une formation, ça renforce aussi l'individu, ça le renforce dans ses certitudes, ça lui donne une corde de plus à son arc, et je pense que, et puis ça, c'est un souvenir qui reste à vie, donc en termes de formation, de communauté que l'on crée autour de gens qui ont subi cet entraînement un peu difficile, ça crée des solidarités qui peuvent être intéressantes dans le cadre ensuite d'une
Alors, vous
carrière.
Vous engagez dans Talks with a Spy à ne pas dévoiler de dossiers qui n'auraient pas déjà été ouverts. Donc, en matière de torture, vous vous appuyez sur plusieurs exemples dont les archives ont été déclassées pour montrer que finalement la torture est assez contre-productive et relativement peu efficiente en fait en matière de renseignement.
Oui, c'est
ça marche beaucoup moins que le sexe, manifestement.
Oui, c'est ça. Moi, j'en suis convaincu. Et pourtant, enfin, ce qui était intéressant, c'est une de mes vidéos qui a été le plus débattue avec les abonnés. Mmh. Et évidemment, avec des arguments contraires qu'on comprend. L'efficacité de la torture en Algérie, enfin, pour la bataille d'Alger, etc. Oui, ça a donné des résultats ponctuels. La bataille d'Alger a pu être gagnée. C'est une victoire militaire. Mais, et alors, enfin, on donne son âme au diable. Ensuite, on arrête, la guerre est terminée et on a torturé. Pourquoi? Finalement, enfin, à long terme, ça ne marche pas. C'est inutile et on.
Bah, ça fabrique des ennemis féroces, voilà, à la patrie que vous êtes censé défendre. Ça, vous le racontez bien. Puis surtout, vous dites, même les Américains, même avec Guantanamo, même dans toutes les opérations faites depuis le 11 septembre, finalement, n'ont que très peu collecté grâce à la torture.
Voilà, absolument. Donc, c'est extrêmement contre-productif. L'image des États-Unis est fortement dégradée à cause de Guantanamo. Et le nombre de renseignements qu'ils ont obtenus grâce à la torture est infime et ne justifie vraiment pas les efforts qu'ils ont faits et l'erreur qu'ils ont faite à Guantanamo.
Alors, vous vous lancez dans un classement des 5 meilleurs services de renseignement du monde. Vous commencez par la CIA. Vous dites que l'opération qui a été menée en amont de l'exécution de Ben Laden vous semble absolument remarquable d'un point de vue du renseignement. Ouais. Vous dites que la CIA s'appuie sur la puissance technique de la NSA. C'est intéressant d'avoir le point de vue d'un espion.
Oui, absolument. Quand on dit que la NSA, et puis on en témoigne, nous en tant qu'experts du renseignement, puis dans notre carrière, dans mon ancienne carrière, j'ai pu voir l'efficacité de la NSA. C'est fou, c'est assez impressionnant, ça rassure.
Vous devez peut-être expliquer ce que c'est pour les auditeurs, la NSA.
Oui, donc, le renseignement américain, c'est 17 agences de renseignement, mais principalement les deux grandes, c'est qu'on connaît le plus, c'est la CIA, c'est le renseignement humain, et la NSA qui est le renseignement technique.
Technique, ça veut dire que ce sont des yeux et des oreilles qui écoutent et qui enregistrent absolument toutes les données numériques dans le monde entier.
Les réseaux sociaux, les comptes internet, les communications téléphoniques, tout ce qui peut être écouté, intercepté, etc.
Voilà. La NSA. Et donc ça a une énorme valeur en matière de renseignement.
Donc c'est extrêmement puissant. Et alors quand c'est bien utilisé contre le terrorisme, on peut s'en féliciter. Et c'est sûr qu'ensuite, en tant que citoyen, on se dit... Et puis voilà, la NSA ne s'est pas gardée d'espionner ses alliés. On a eu plusieurs preuves. Donc c'est aussi la toute-puissance de la NSA... rassure d'un côté et puis peut inquiéter légitimement parce que c'est un outil extrêmement puissant.
Vous dites que la particularité de la DGSE, donc nos services de renseignement extérieur en France, c'est d'avoir totalement intégré le renseignement humain et le renseignement technique, justement, de ne pas en avoir fait deux pôles ou deux agences rivales, séparées, concurrentes.
C'est vraiment la différence avec le système américain. Là, on a au sein d'une même agence une direction technique et une direction du renseignement qui travaillent donc main dans la main, dans les bureaux sont mélangés. On a un responsable de renseignement humain avec son ordinateur, à côté un responsable technique. Et donc, c'est très, très efficace. Et donc, je trouve qu'avec la DGSE, on a un excellent rapport qualité-prix.
Et si vous mettez le MI6 en deuxième position, donc entre la CIA et la DGSE, vous le dites simplement, c'est parce que les Britanniques ont leur renseignement dans le sang.
Eh oui, on a toujours lu John le Carré, etc. Et ils sont forts, les Britanniques. Et ils ont formé le BCRA, et les Américains aussi ont bâti leur service de renseignement à partir de rien sur l'expérience britannique. Donc en fait, c'est la mère patrie en termes du renseignement, pour le renseignement occidental en tout cas. Et d'ailleurs, même les Pakistanais, enfin, les Britanniques ont donné la technique renseignement pratiquement au monde entier.
Merci beaucoup, Beryl 614. Je ne sais absolument pas qui vous êtes, mais c'est un plaisir de vous écouter.
Merci bien. Moi aussi, c'est un plaisir.
With a Spy, c'est donc sur YouTube et c'est un des héritiers de Monsieur X. Voilà, et vous pouvez regarder l'interview de Beryl 614 en vidéo. L'occasion pour moi de remercier nos techniciens de l'image qui ont travaillé à flouter le visage de notre invité incognito. Puis c'est l'occasion aussi de saluer toute mon équipe, François Audouin à la réalisation, Anne-Cécile Perrin et Redouane Tella qui préparent avec beaucoup de talent les émissions. Michel Bézikian au son ce matin.